Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Aujourd'hui, nous faisons un peu différemment. Vous avez d'abord la prédication et ensuite les chants. J'ai eu à cœur de vous parler cet après-midi de cette histoire qui est une des histoires les plus connues de toute la Bible, connue non seulement des chrétiens, des croyants, mais souvent aussi des non-croyants. Qui regarde cette histoire un peu comme une légende, mais nous savons que tout ce qui est dans la parole de Dieu n'est pas une légende, ce sont des choses qui sont arrivées. Et c'est une histoire également très ancienne, bien sûr. On ne peut pas dire exactement à quelle date a eu lieu le déluge, mais on peut parler de plusieurs milliers d'années en arrière, si ce n'est pas non plus plusieurs milliers d'années avant la venue de Jésus. Cependant, on pourrait se poser la question, évidemment, quel rapport cette histoire peut-elle avoir avec nous qui vivons en 2011, c'est-à-dire 5, 6, 7 000 ans après. Certains diront qu'il n'y a pas beaucoup de rapport avec nous parce que c'est une trop vieille histoire, l'époque n'est plus la même. Bon, c'est certain que l'époque n'est plus tout à fait la même. Nous ne savons pas exactement tout sur l'époque de Noé. Mais d'abord, c'était loin d'ici, et puis c'était loin aussi dans le temps. Cependant, et puis on pourrait dire aussi que Dieu a promis qu'il n'y aurait plus de déluge. Donc on pourrait se dire, pour toutes ces raisons, pourquoi étudier la vie de Noé? Pourquoi étudier le déluge? Je dirais tout simplement parce que, contrairement peut-être à certaines apparences, le message est d'actualité. Nous allons le voir tout à l'heure. Et ce message, c'est le message de Noé. C'est pour cela que j'ai donné ce titre à cette prédication. J'aimerais souligner d'abord que Noé, le nom, le prénom, parce qu'aujourd'hui chez nous c'est un prénom qui est donné de temps en temps. Je connais un Noé. Je connais un Noé qui est d'ailleurs italien, qui s'appelle Noé. Il n'y a pas souvent des gens qui s'appellent Noé, hein. Mais c'est un prénom qui vient d'une racine hébraïque qui signifie repos. Le repos. Vous savez qu'en tout temps, les parents aiment bien choisir des prénoms pour leurs enfants, des prénoms particuliers. Quelquefois, on donne à son enfant le prénom de quelqu'un de célèbre qu'on a bien beaucoup aimé. Parfois, on donne, je connais des gens qui ont donné à leur enfant le nom, le prénom de leur chanteur ou chanteuse préférée. Bon, pauvre enfant, il n'a pas demandé, lui. Peut-être que plus tard, il n'aimera pas du tout ce chanteur ou cette chanteuse. C'est toujours délicat de donner des prénoms comme ça en fonction de certains goûts. Là, nous avons un prénom que le papa, qui s'appelait Lamech, la mère peut-être qu'on devrait dire, en prononçant l'hébreu, son père avait donné ce prénom. Il le dit dans Genèse chapitre 5, verset 29. Il est dit que Lamech a donné ce prénom à son fils en disant: celui-ci nous consolera ou nous reposera de la peine que cause pour nous nos durs labeurs manuels sur la terre que Dieu a maudite. Voilà un homme qui ressentait plus particulièrement peut-être que d'autres le fait que la terre avait été maudite à cause du péché d'Adam et Ève. Et il se rendait compte, puisque Dieu avait dit « Vous travaillerez à la sueur de votre front, c'est à la sueur de votre front que vous gagnerez de quoi vivre, de quoi manger. » Et voilà un homme qui a pris peut-être ça littéralement et trop à cœur, très à cœur en tout cas, et qui s'était dit « Voilà, mon fils, je vais l'appeler repos. » Je ne sais pas s'il se disait « Notre fils nous reposera. » Vous savez, quand on a un enfant, on ne sait pas s'il nous reposera ou si ce sera le contraire, qu'il soit petit ou qu'il soit plus grand. En tout cas, c'est un prénom qui est très significatif. Je dirais que, deuxième chose, Noé a bien grandi. Noé a bien grandi. Je ne sais pas si c'était un homme reposant pour son entourage, mais en tout cas, c'était un homme dont la Bible dit au chapitre 6, verset 9, nous l'avons lu tout à l'heure au début de la lecture, c'était un homme intègre et juste. Cela n'est pas dit forcément de sa jeunesse ou de son enfance, mais arrivé à un certain âge, et à l'époque, semble-t-il, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps que maintenant, ces âges-là nous paraissent vraiment canoniques, c'est le moment de le dire. Noé, à son âge adulte, a reçu ce témoignage de Dieu. Et c'est toujours intéressant, toujours important de voir le témoignage que Dieu rend sur les gens. Parce que vous savez, on a toutes sortes de choses. On a les gens qui se rendent témoignage à eux-mêmes. On a les gens qui rendent témoignage sur leurs amis. Et alors c'est toujours, on voit cela souvent à la télévision, dans les médias, des gens qui dressent des couronnes aux autres, qui leur tressent des lauriers, qui disent toujours de toutes sortes de bien sur les autres, quand c'est pas des fois sur eux. Mais là, c'est le témoignage de Dieu, qui voit tout, qui voit dans les cœurs. Et ce témoignage-là, pour nous, a une plus grande importance. Ce que Dieu pense est plus important que tout le reste et que tout ce que nous, les hommes, nous pouvons penser. Ce mot « intègre », qui parle d'une grande probité morale, d'un grand équilibre moral chez la personne, d'un rapport sain, dans tous les sens du terme, sain S-A-I-N et sain S-A-I-N-T, entre l'homme et Dieu, entre l'être humain et Dieu. Je crois qu'il est aussi employé à propos d'un autre homme dont nous parle la Genèse, c'est Abraham. Dieu a dit un jour à Abraham, « Abraham, marche devant moi et sois intègre, et je multiplierai ta descendance. » L'intégrité, Dieu y attache de l'importance. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le mot que l'on a traduit dans les traductions françaises par « intègre » est aussi employé pour qualifier, vous savez, l'agneau ou les animaux que l'on offrait en sacrifice à Dieu. Dieu disait « Je veux que vous m'offriez un animal pur, un animal parfait ». Et c'est le même mot qui est employé, un animal intègre, dans lequel il n'y a pas de défaut. En quelque sorte, c'est comme si Dieu disait à Noé, ou Dieu disait, pardon, de Noé, c'est un homme juste et c'est un homme parfait. Bon, la Bible ne dit pas qu'il était parfait, mais c'est quand même le mot que le texte en hébreu utilise pour parler de lui. C'était un homme parfait aux yeux de Dieu. Il était parfait peut-être pas dans tous les moindres petits détails, vous savez, c'est difficile quand on est un homme, un être humain, je veux dire, un homme ou une femme, bien sûr, d'être absolument parfait. Parce que après, on va observer la personne, voir s'il n'y a pas une parole qui va être dite un jour, là, au coin d'une rue, et qui va sortir un petit peu de la perfection. Mais Dieu dit, pour moi, Noé est un homme parfait. Alors, cet homme parfait, c'est important aussi de le souligner, ne vivait pas dans un monde parfait. Cet homme qui était aux yeux de Dieu un homme honnête, probe, un homme juste, un homme intègre, ne vivait pas dans un monde qui lui ressemblait. Et cela, c'est intéressant aussi. Nous avons deux textes qui parlent du contexte, parce que Noé était un homme juste et intègre, mais dans un contexte qui était loin de l'être. Noé vivait dans un monde difficile. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit, l'histoire de Noé, bien qu'ancienne, bien connue de tous, c'est une histoire qui a un rapport avec notre histoire. Je lis dans Genèse chapitre 6, verset 5, « L'Éternel, Dieu, vit que la méchanceté de l'homme » ça c'est l'époque de Noé, hein, « L'Éternel, Dieu, vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. » C'est un jugement général que Dieu porte en voyant l'humanité, en voyant la société de l'époque, en voyant ce monde dans lequel vivait Noé, l'homme juste et intègre, l'homme qui aimait Dieu. Nous le verrons tout à l'heure, l'homme qui marchait avec Dieu. Eh bien, ce monde dans lequel il vivait était un monde méchant, et c'est le mot méchant, vraiment, le mot méchanceté qui dépeint les contemporains de Noé. Ce qui nous amène à penser une chose, c'est qu'il est possible, et là encore, il y a un rapport avec notre époque, donc c'est une histoire toujours d'actualité, il est possible de vivre dans la justice et l'intégrité dans un monde qui est tout le contraire. Il y a un autre texte un peu plus loin, je crois qu'il a déjà été lu tout à l'heure, je reviens juste sur un verset ou deux. Il nous est dit à l'époque de Noé, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. La terre était pleine de violence. » Il y a deux mots qui ressortent ici. L'époque de Noé était caractérisée par la corruption et la violence. Et là, nous pouvons quand même, sans faire trop d'efforts, penser aussi à certaines caractéristiques de notre époque. Notre époque peut aussi se caractériser par une certaine corruption. Bon, tout le monde n'est pas corrompu, mais on entend souvent parler de corruption, dans les médias, et la violence est aussi présente assez souvent. On peut donc, soit dit en passant, faire un certain parallèle entre l'époque de Noé et la nôtre, et comprendre que si l'époque de Noé n'était pas facile, et la nôtre non plus, cela n'a pas empêché Noé, comme nous l'avons dit déjà, de marcher dans la justice et dans l'intégrité. Il nous est dit, dans Genèse chapitre 6, verset 9, « Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. » On entend cette expression de temps en temps dans la parole de Dieu, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais on entend souvent parler d'hommes qui marchaient avec Dieu. Il nous est dit par exemple qu'un autre homme qui vivait quelque temps avant Noé, c'est Enoch. Vous savez, c'est l'un des deux hommes qui, dans la Bible, a été enlevé auprès de Dieu sans passer vraiment par la mort. Et l'autre, c'est bien sûr le prophète Élie. Il est dit d'Enoch qu'il marchait lui aussi avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, c'est synonyme de communion avec Dieu. Ça veut dire que, bien sûr, aux yeux de Dieu, on est quelqu'un d'intègre, de juste comme Noé, ou quelqu'un qui, comme Enoch, marchait lui aussi dans une génération difficile, à une époque difficile, moralement, spirituellement. On ne priait pas beaucoup Dieu à l'époque d'Enoch. Un texte précédent dans la Genèse nous montre qu'à l'époque d'Enoch, ce qui comptait simplement, c'était on naissait, on grandissait, on se mariait, on faisait des enfants, on vivait après un certain nombre d'années, puis on mourait. C'est comme ça que la Genèse caractérise l'époque d'Enoch. Et l'époque de Noé, c'est exactement la même chose, sauf que, et nous verrons tout à l'heure qu'elle avait quand même encore d'autres caractéristiques, c'était une époque où, en plus, peu à peu, la corruption et la violence vont s'installer. Et j'en viens peut-être encore à cet autre texte. C'est un texte de l'évangile de Matthieu qui caractérise encore un peu plus, qui nous apporte un complément d'information sur l'époque de Noé. Dans Matthieu chapitre 24, je lis trois versets. Matthieu 24, versets 37 à 39. Jésus parle de la fin des temps, d'un autre cataclysme qui viendra bientôt, donc encore un rapport avec l'époque de Noé pour nous. Et Jésus dit dans Matthieu 24, 37 qu'à la fin des temps, peu avant son retour sur terre, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il, dit Jésus, à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Il n'est pas dit ici qu'ils exagéraient dans le manger, dans le boire. Il n'est pas dit ils faisaient la fête tous les jours et ils s'enivraient. Ce n'est pas ça qui est dit. C'est ce qui est montré, c'est autre chose. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et je crois qu'il y a un autre évangile qui dit ils achetaient et ils vendaient des maisons. Ce qui est décrit par Jésus, c'est un état d'esprit. Les hommes ne vivaient que pour la terre, que pour leur existence sur terre. Ils mangeaient, ils buvaient, il faut bien manger et boire pour survivre. Même si on boit que de l'eau et qu'on mange que des légumes et des choses très saines, un peu de viande, un peu de poisson, même si on mange équilibré, il faut bien manger. C'est une activité légitime, cela. Se marier et marier ses enfants, c'est une activité légitime aussi. Acheter et vendre, c'est une activité légitime, il n'y a rien de mal en soi. Mais Jésus dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même, dit Jésus, à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus stigmatise ici un état d'esprit, une mentalité que l'on pourrait peut-être désigner d'un mot plus moderne, qui est le matérialisme. Les gens de l'époque de Noé Et je pense que les gens de notre époque vivent aussi dans cet esprit-là. On ne vit que pour aujourd'hui. Quand on interroge les gens qui habitent dans notre pays, ou les Français d'une manière générale, on voit que les gens pensent d'abord à avoir une bonne santé, si possible à bien gagner sa vie, pour pouvoir acheter ce qu'on a envie, et puis pouvoir vraiment s'amuser, on a cette expression populaire, s'éclater. On vit pour soi, on vit pour cette terre, on vit pour les biens matériels et pour le plaisir. C'est à peu près ce qui se passait à l'époque de Noé, avec en plus, donc, comme nous disions tout à l'heure, la violence et la corruption. Noé, dans cette ambiance-là, a marché avec Dieu. Et il est arrivé quelque chose, et quand nous marchons avec Dieu, il peut toujours nous arriver quelque chose de sérieux, quelque chose de bon. C'est que Dieu, comme nous l'avons lu, devant cette méchanceté, cette violence, cette corruption, cet esprit matérialiste, Dieu a décidé de faire venir une catastrophe, le déluge. Et il a demandé à Noé, il a parlé à Noé de cela, il l'a averti, puisque c'était un homme juste et un homme intègre. Et il nous est dit que, dans Hébreux 11, 7, tout à l'heure, Idir a lu ce texte, « C'est par la foi que Noé, divinement averti, donc averti par Dieu, de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. » Ça, c'est important parce que la Bible nous dit, nous enseigne tout le temps de craindre Dieu. Mais craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur. Ça ne veut pas dire vivre dans la terreur. Quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans une église où il y avait quand même une empreinte de terreur. Enfin, moi, je le vivais comme cela, peut-être parce que j'étais jeune, j'étais petit, j'étais pas encore très adulte et je craignais certaines choses. Mais on nous faisait comprendre que Dieu était un Dieu sévère. Et pendant très longtemps, j'ai vécu dans l'idée d'un Dieu sévère qui ne me permettrait pas la moindre erreur. C'est pas qu'on a le droit de faire des erreurs, mais dans la vie humaine, ça arrive qu'on fasse des erreurs. Et j'ai mis du temps à découvrir que Dieu était en même temps un Dieu d'amour. Et comme dit l'apôtre Jean, je crois que c'est dans sa première lettre, il dit « L'amour n'est pas dans la crainte ». Nous devons craindre Dieu, mais ici il est parlé d'une crainte respectueuse. C'est une crainte qui n'est pas une crainte terreur, une crainte qui paralyserait. C'est une crainte qui nous pousse au respect, et donc nous respectons Dieu en respectant sa parole. C'est ce qu'a fait Noé. Noé a entendu Dieu lui parler, nous ne savons pas comment, mais peu importe. Dieu a de multiples moyens pour nous parler. Et il nous est dit que Noé a été saisi de crainte, qu'il a respecté ce que Dieu disait, c'est-à-dire qu'il a cru ce que Dieu disait, puisque c'est par la foi, nous est-il dit, qu'il a été averti, et il a construit l'arche. Pourquoi ? Dieu a dit à Noé, je vais envoyer le déluge. Construis une arche pour pouvoir sauver et toi-même, et ta femme, et tes enfants, et je suppose qu'il était sous-entendu, et tous ceux qui voudront croire au message que tu prêcheras. Tous ceux qui te demanderont, mais qu'est-ce que tu fais Noé dans ton jardin ? Il fallait qu'il ait un grand jardin, mais il devait l'avoir. Il dit, qu'est-ce que tu construis là ? Un bateau. Et pour aller où ? On est en plein milieu des terres. Parce que Dieu va envoyer un déluge d'eau. Un déluge d'eau. Si certains, apparemment ce n'a pas été le cas, mais si certains avaient dit, Noé, c'est vrai ce que tu nous dis ? C'est Dieu qui t'a parlé vraiment ? Ils étaient libres de croire ce que Noé disait. Il nous est dit dans la deuxième lettre de Pierre, nous ne le lirons pas, mais il est dit que Noé était comme un prédicateur de la justice. Par sa vie, il a prêché la justice de Dieu. Il y a le mal, il y a le péché, il y a la corruption, il y a la méchanceté. Dieu doit être sévère avec cela, parce que c'est un Dieu saint, un Dieu pur. Alors, s'ils avaient voulu se convertir, se repentir, ils auraient pu le faire. Noé a cru ce que Dieu a dit, et il a pris au sérieux, c'est cela la crainte respectueuse, il a pris au sérieux ce que Dieu disait, et il l'a prouvé en construisant l'arche. Il a montré qu'il croyait ce que Dieu avait dit, qu'il croyait que Dieu allait envoyer le déluge, qu'il croyait que les hommes méchants allaient périr, et que les bons pourraient être sauvés dans l'arche. Malheureusement, ils ne furent pas nombreux, comme nous le savons. Je crois que cette idée de construction de l'arche est importante pour nous aussi aujourd'hui, et je terminerai par cela, parce que nous sommes, en quelque sorte, nous aussi dans une arche. Ou plutôt, nous construisons nous aussi une arche. Cette arche, on peut considérer que c'est l'Église. Pourquoi ? L'Église joue le même rôle que l'arche. Dans un monde corrompu, violent, dans un monde matérialiste qui ne pense qu'à son plaisir et à son bien personnel, dans ce monde-là, Dieu nous exhorte à édifier cette arche qu'est l'Église. L'Église doit être le lieu où chacun peut entrer s'il croit à la parole de Dieu et à ce que Dieu veut faire. Il nous est dit que Dieu se souvint de Noé. Au chapitre 8, verset 1, je lis « Dieu se souvint de Noé quand il était dans l'arche, sur les flots, sur la mer. Et Dieu a fait en sorte que le déluge s'arrête. Dieu a fait en sorte que la pluie s'arrête. Dieu a fait en sorte que les eaux descendent de niveau et que Noé, sa femme, ses enfants et leurs femmes puissent un jour sortir de l'arche et commencer une existence nouvelle. » Dieu se souvient toujours de ceux qui marchent avec lui dans la justice et l'intégrité. Le père de Noé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, rêvait de repos. Nous aussi sans doute. Mais pour obtenir le repos de Dieu, parfois il faut passer par les difficultés. Ces difficultés, Noé les a traversées en faisant confiance à Dieu et en croyant à sa parole. Eh bien nous, je crois que nous pouvons faire de même. Soyons comme Noé, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, qui sauront être attentifs à la parole de Dieu en toutes choses, tous les jours, et qui ainsi pourront être nous aussi, même sans être prédicateurs tous, mais des prédicateurs de justice, de la justice et de l'amour de Dieu, par notre comportement, par notre vie, par notre confiance en Dieu et par la manière juste et intègre dont nous marchons. Dieu a besoin d'avoir à nouveau d'autres Noé à sa disposition, et ces Noé, ce peut être nous, chacun d'entre nous, si nous écoutons sa voix, et si nous, lorsque nous l'entendons, nous sommes nous aussi saisis d'une crainte respectueuse. Que Dieu soit béni.